Merci d'écouter RFI, 11h30 en temps universel. Il est 13h30 ici à Paris. L'essentiel de l'actualité internationale, tout de suite résumé par Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour, bonjour. Le Hezbollah libanais menace Israël de nouvelles attaques en cas de poursuite de son offensive au Liban. Hier soir, une frappe de drone contre une position militaire au sud d'Haïfa en Israël a tué 4 soldats israéliens, blessé plus de 60 personnes. Le chef d'état-major de l'armée israélienne s'est rendu sur place ce matin. Il a reconnu que cette attaque du Hezbollah était douloureuse. La Chine a déployé ce matin des avions et des navires de guerre pour encercler Taïwan dans le cadre de manœuvres militaires présentées, je cite, comme un sérieux avertissement lancé aux autorités de l'île. La Chine, qui d'après Taïwan a engagé quelques 125 avions, déclare qu'elle a maintenant mené avec succès ses exercices. Correspondance à Taipei de Jules Bois.
Avec ces exercices, la Chine a deux objectifs. D'abord, entraîner son armée en cas de conflit ouvert avec Taïwan. D'ailleurs, le communiqué officiel chinois de ce matin est on ne peut plus clair. Il y est fait mention de blocus des ports et autres zones clés, d'assaut de cibles maritimes et terrestres, bref, une préparation en cas de guerre avec l'île. Mais le second objectif de ces exercices, c'est un avertissement pour ce que Pékin appelle les forces indépendantistes, comprenez les Taïwanais qui souhaitent préserver la souveraineté et le régime démocratique de l'île. D'ailleurs, le timing également n'est pas anodin. Ces entraînements militaires arrivent seulement 4 jours après les célébrations de la fête nationale taïwanaise, durant laquelle le président Lai Ching-te s'était engagé à résister à l'annexion chinoise, en réaffirmant que Pékin n'avait aucun droit de représenter Taïwan. Sur place, la vie suit son cours comme si de rien n'était. La population taïwanaise est habituée à vivre avec la menace chinoise, mais le ministère de la Défense taïwanais a indiqué que ses forces armées se sont déployées ce matin pour défendre le territoire. Jules Bois, Taipei. RFI.
Et à l'annonce de ces exercices, les États-Unis ont dénoncé des opérations injustifiées constituant, je cite, un risque d'escalade. L'Union européenne, elle a appelé toutes les parties à la retenue. La saison des Nobel se termine avec le prix d'économie. 3 économistes distingués cette année, l'américano-turc Daron Acemoglu et les britanno-américains Tamon Johnson et James A. Robinson. Tous 3 sont récompensés pour leur recherche sur la compréhension des différences de prospérité entre les nations. Le Brésil n'en finit pas avec les phénomènes météo extrêmes. Ce week-end, plusieurs États ont subi des pluies diluviennes et des vents violents qui ont fait au moins 8 morts. Une dépression s'est abattue après une sécheresse record au Brésil qui a favorisé des incendies de forêt très importants. Le mondial de l'automobile ouvre ses portes aux professionnels ce lundi à Paris. Il va donner lieu à un face-à-face entre constructeurs chinois et européens dans un contexte de forte tension entre les deux. L'Union européenne se prépare à imposer de lourdes taxes douanières aux véhicules électriques produits en Chine. L'annonce par le gouvernement français d'une nouvelle loi immigration pour début 2025 a beaucoup fait réagir dans la classe politique. Ce n'est pas totalement prioritaire, a estimé ce matin sur France Inter Gabriel Attal, le chef de file des députés macronistes. À l'inverse, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, s'est réjoui de cette annonce. Son parti est prêt à voter certaines mesures de cette loi. Mais Jordan Bardella a démenti neutralité en échange sur le projet de budget 2025. Enfin, en tennis, la hiérarchie mondiale est plus que jamais dominée par l'Italien Yannick Sinner, vainqueur du tournoi Masters 1000 de Shanghai. Il est assuré de finir l'année au rang de numéro 1. Au classement ATP, il devance l'Espagnol Carlos Alcaraz et l'Allemand Alexander Zverev.
Merci Gilles Moreau, on vous retrouve tout à l'heure pour un prochain journal. Il est 13h34 ici à Paris, nous allons parler de l'actualité en Europe pendant la prochaine demi-heure.
RFI L'Europe à midi.
Et d'abord de révélations sur la répression en Iran menée en partie avec des munitions européennes. C'est la conclusion d'une enquête de nos confrères de France 24. Et Julie Dungeloff est avec nous en studio pour nous en dire plus. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez travaillé pendant plus de 2 ans sur ce sujet avec Ershad Alijani. Vous avez reçu de nombreux témoignages de ceux qui s'étaient mobilisés après la mort en détention de Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée par des policiers qui lui reprochaient de mal porter son voile. Et voici par exemple ce que vous a raconté Eléa.
Nous ne faisions que scander des slogans. Nous n'avons détruit aucun bien public, fait de mal à personne. Nous ne faisions que chanter. Et au bout de 15 minutes, les policiers sont arrivés sur la place centrale. Ils ont commencé à tirer. Quand j'ai touché le sol, durant les premières secondes, je n'ai vu que du noir et du sang. J'avais très peur. Ça saignait énormément et j'avais tellement mal. Ça me brûlait et ils n'arrêtaient pas de tirer.
Voilà, à ce moment-là, donc, vous vous êtes penché sur les blessures infligées aux manifestants après avoir reçu de très nombreuses photos, notamment de munitions qui ont été utilisées contre ces protestataires en Iran. On va revenir dans un instant sur vos découvertes. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la manière dont vous avez travaillé?
Alors, c'est vraiment une enquête qui s'est faite en trois volets. Vous l'avez dit, on l'a commencé à l'automne 2022. Nous, journalistes, on ne peut pas aller en Iran pour documenter cette répression. Et donc Ershad Alijani, qui est journaliste iranien pour la rédaction des Observateurs de France 24, observe sur les réseaux sociaux de très nombreuses photos et vidéos montrant un usage qui serait massif de fusils à pompe dans la répression en Iran. Et il se rend compte également de l'utilisation de munitions de chasse. Donc il dévoile un premier volet de cette enquête. Là-dessus, il envoie un message sur les réseaux sociaux en persan, en demandant aux gens « Envoyez-nous vos photos, vos vidéos ». Et là, le tweet, parce que c'était sur le réseau social Twitter à l'époque, devient viral. Et on reçoit de très, très nombreuses photos. Alors évidemment, nous, notre travail de journaliste, c'est pas simplement de recevoir ces photos et de se dire « Ok, voilà ». Mais c'est de tout vérifier. Donc ça a été un travail très, très important, de géolocaliser les photos, de croiser les témoignages. Et donc à ce moment-là, on se rend compte que parmi ces photos de munitions de chasse, eh bien, figure une société française, franco-italienne, chez Dit.
Allez, donc cette marque, vous rendez compte que les cartouches de cette marque sont présentes à de nombreuses reprises. Est-ce que vous avez pu documenter l'ampleur de son utilisation à ce moment-là en Iran?
Alors, ce qu'on a pu documenter, c'est qu'on était absolument certain que ces cartouches avaient servi lors des manifestations en 2022 pour réprimer les manifestants. En revanche, par exemple, on vient d'entendre le témoignage d'Elaé. On ne sait absolument pas si ces cartouches ont fait des victimes ou non en Iran. Ça, on n'a pas pu le documenter. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en revanche, des cartouches d'une société franco-italienne se sont retrouvées en 2022 en Iran, placées sous sanctions internationales.
Et dans plusieurs villes du pays, ça vous en est sûr. On parle de quel type de munitions qui servent dans quel type d'armes?
Alors, comme je vous le disais, chez Dit, en fait, c'est le champion de la cartouche de chasse. Donc, ce sont des cartouches de chasse. Des cartouches de chasse, c'est assez spécifique puisque elles sont remplies, en fait. Elles ont un étui en plastique dans lequel on met soit des petits plombs en métal, soit des gros plombs qui servent normalement à tirer le sanglier, par exemple, soit des billes en plastique. Et la spécificité de ce type de cartouche, c'est qu'elles frappent de manière indifférenciée. Donc, par exemple, si vous visez du goudron avec ce type de cartouche, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir un effet de gerbe, les plombs vont ricocher et ça va cibler énormément de manifestants. Et c'est pour ça qu'en Iran, on se rend compte que, par exemple, rien que dans la ville de Téhéran, plus de 500 personnes ont perdu un œil, voire les deux. Donc, c'est un peu comme à l'époque des manifestations en Égypte où beaucoup de personnes s'étaient retrouvées aveuglées du fait, justement, du fait que ça part en gerbe et que c'est totalement indifférencié. Et donc, selon notamment Amnesty International, ce type de munitions ne devrait jamais, au grand jamais, être utilisé pour le maintien de l'ordre.
Et alors, d'autant moins là, en l'occurrence, que il est interdit aujourd'hui de vendre des armes et des munitions à l'Iran, qui est sous embargo européen. Et vous avez découvert que de très nombreuses munitions seraient en fait vendues par l'entreprise française, chez Dit, à la Turquie, qui, elle, les revendrait ensuite au régime de Téhéran. Elles seraient vendues par une société turque, ce qui permet au groupe chez Dit de se justifier, comme on peut l'entendre dans cet extrait obtenu en caméra cachée au salon Eurosatory. Ce sont deux commerciaux de l'entreprise qui vous répondent.
Qu'est-ce que je peux faire? M'interdire de vendre à la Turquie? C'est tout ce que je fais. Je m'interdis à vendre à éventuellement un pays qui pourrait éventuellement le revendre à un autre pays. Moi, c'est 80% d'export. Moi, j'arrête tout export, je ne vends qu'en France. Et je licencie 350 personnes. Soyez tout à fait logique.
Voilà, donc des exportations à autoriser donc vers la Turquie. Et puis, ces commerciaux vous expliquent aussi qu'ils ne savent pas ce qui se passe ensuite, une fois que les munitions arrivent en Turquie. Pourtant, vous avez découvert que chez Dit et l'entreprise turque qui s'occuperait de la revente à l'Iran, en fait, elles sont très liées, ces deux sociétés.
Et c'est vraiment la révélation principale, si vous voulez, de ce troisième volet de notre enquête. C'est que, donc, dès 2022, on se rend compte qu'il y a des cartouches chez Dit. On commence à en savoir un peu plus sur l'entreprise. On se rend compte que chez Dit a déjà été dans une enquête journalistique italienne lors de la répression birmane, qui est sous sanction internationale également. Donc on commence à creuser un petit peu et puis on se rend compte qu'en fait, sur les forums de chasse iraniens, il y a le nom d'une société turque qui revient régulièrement. Donc on commence à enquêter dans le registre des sociétés turques à l'aide d'une journaliste turque basée à Istanbul. Et en fait, on se rend compte que eh bien, Chedid détient, Chedid Italie et Chedid France détiennent 50% de la société turque. Et plus que ça encore, que trois dirigeants du groupe auquel appartient Chedid sont au conseil d'administration de la société turque. Et donc évidemment, ça pose énormément de questions et ça contredit un petit peu la défense de ces personnes rencontrées au salon Rossatori qui disent, bah nous, ma foi, si ça transpire, s'il y a des gens qui en font de mauvais usage, on ne sait pas. Moi, la question que je me pose, c'est pouvait-il ne pas savoir ?
Ça surprend d'ailleurs beaucoup Nicolas March du Peace Research Institute, avec qui vous avez pu échanger exactement sur ce point.
Ça paraît improbable de faire partie du conseil d'administration de deux compagnies différentes et de ne pas être au courant d'un contrat aussi important. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils font au conseil d'administration s'ils ne parlent pas justement des affaires de la société en question ?
Donc difficile de croire pour ce chercheur que l'entreprise française n'ait pas su. Et puis, il faut signaler, dernier point, que vous n'avez jamais obtenu, tout au long de votre enquête, d'entretien avec les autorités françaises.
Oui, dès 2022, il y a des associations de droits de l'homme iraniennes, quand on a révélé la présence de ces cartouches franco-italiennes, qui ont saisi les autorités françaises. Nous-mêmes, nous avions alerté les autorités françaises, qui nous avaient dit, à ce moment-là, lancer des investigations pour savoir s'il y avait eu ou non un détournement de l'embargo. Et donc, évidemment, lorsqu'on a décidé d'aller plus loin et de continuer cette enquête, eh bien, on a cherché à contacter les différents ministères, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, les douanes. On a contacté aussi le ministère de la Défense. Et soit on nous a dit que c'était un sujet trop sensible, ou très sensible pour être exact, sur lequel ils ne souhaitaient pas communiquer, soit on nous a renvoyé à un communiqué assez protocolaire nous indiquant que la France respectait tous les embargos, mais jamais personne a accepté de nous répondre sur la France a-t-elle ou pas mené une enquête en 2022 et si oui, quels sont les résultats de cette enquête.
Merci beaucoup Julie Dungeloff, votre reportage réalisé, votre enquête donc avec Ershad Alijani diffusée sur France 24 et qu'on peut retrouver sur le site france24.com, enquête que vous avez appelée Répression iranienne, munitions françaises. Merci beaucoup.
RFI, l'Europe à midi.
La Pologne s'attaque à son tour à l'immigration. Le Premier ministre a annoncé hier sa volonté de durcir sa politique. Le tout sur fond de bras de fer avec la Biélorussie voisine qui pousse des migrants à la frontière polonaise depuis le début de la guerre en Ukraine. Il y a donc un rapport de force au niveau régional, mais la proposition de Donald Tusk de remettre en cause le droit d'asile a suscité beaucoup de critiques en Pologne. Adrien Sarla.
Quelques mois à peine après s'être opposé au pacte migratoire européen, Donald Tusk a créé la controverse ce samedi lors du congrès de son parti.
Un des éléments de notre stratégie migratoire consistera à suspendre temporairement le droit d'asile sur notre territoire. Et je ferai en sorte que l'Europe reconnaisse cette décision. Car on sait très bien comment Loukachenko, Poutine, les passeurs et les trafiquants d'êtres humains en profitent pour rendre le droit d'asile contre-productif.
Mais sa déclaration a fait bondir les associations humanitaires du consortium migratoire. Magdalena Nazimek dénonce l'une des plus graves atteintes aux droits de l'homme.
Cette idée de Donald Tusk viole complètement l'article 18 de la Charte européenne des droits fondamentaux. La personne qui ne sera pas en mesure de faire une demande d'asile sera emprisonnée à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, peu importe sa situation individuelle, c'est-à-dire quel que soit son état de santé, son histoire et la raison pour laquelle elle a quitté son pays.
Depuis le mois de juin, une zone tampon complètement militarisée borde déjà la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Selon les gardes-frontières, elle a déjà permis de réduire le nombre de traversées illégales de 70%. Adrien Sarla, Varsovie. RFI.
L'immigration, sujet poussé par l'extrême droite dans plusieurs pays d'Europe, notamment en France, où le président du Rassemblement national se réjouit ce matin de l'annonce du gouvernement d'hier, de la volonté d'une nouvelle loi sur la question annoncée dès l'année prochaine, alors que la précédente date d'il y a quelques mois et que certaines dispositions ne sont pas encore entrées en vigueur. Satisfaction donc de Jordan Bardella qui dément tout accord avec le gouvernement. Une loi sur l'immigration en échange d'un vote neutre sur le budget, voilà ce qui était reproché par certains opposants politiques. Illustration aussi de la montée en puissance de l'extrême droite en Belgique. Les résultats des élections municipales hier et pour la première fois, l'extrême droite a obtenu une municipalité en Flandre assez largement. Mais la presse, ce matin, Léonard Vincent, a beaucoup plus à dire sur ce scrutin. Les journaux essaient de donner du sens à ces élections.
Oui, le grand quotidien francophone Le Soir, par exemple, veut voir dans ces élections d'hier la preuve que le Parti socialiste est toujours vivant, comme le clame en une son éditorialiste Béatrice Delvaux. La possibilité existait, écrit-elle, qu'il sorte très affaibli et déstabilisé du scrutin communal si l'électeur votait ce 13 octobre comme il avait voté le 9 juin dernier lors des élections parlementaires où le parti de droite Mouvement Réformateur lui avait damé le pion au niveau fédéral et régional. Alors oui, lit-on dans Le Soir, les socialistes perdent des majorités absolues à Herstal et prennent des sacrés coups à Molenbeek en Andenne, mais les socialistes restent premiers dans les grandes villes francophones où il était premier. De son côté, l'éditorialiste de La Libre Belgique, Dorian Demeus, souligne que, en comparaison avec le scrutin de juin, la cohérence l'a emporté, dit-il, comme souhaité par les négociateurs de la future coalition gouvernementale, actuellement en discussion. Mais au-delà des constats politiques, nuance-t-il, il ne fait aucun doute que la démocratie est actuellement mise à rude épreuve. L'éditorialiste en veut pour preuve ce qu'il appelle le phénomène inquiétant qui s'est manifesté donc dans la commune de Ninove, en Flandre orientale, vous en parliez, où l'extrême droite a obtenu la majorité absolue. Du jamais vu, dit-il, l'extrême droite flamande tient là son Graal, tandis qu'à Bruxelles, dit-il, l'incroyable percée de la très communautariste Tim Fouad Aïdar a également de quoi faire trembler le PS qui tient la mairie, mais aussi tous les défenseurs de la neutralité de l'État. Et le quotidien flamand Des Morgan souligne enfin la bonne résistance de la droite face aux nationalistes dans ces bastions.
Et dans la presse flamande, c'est aussi la question de l'abstention qui a retenu l'attention des éditorialistes.
Oui, Anne, ce scrutin était une sorte de test. La Belgique est l'un des pays du monde où le vote est obligatoire et ce n'est désormais plus le cas en Flandre. Et du coup, De Morgan publie une longue analyse de l'abstention qui frappe davantage les villes que les campagnes et qui concerne autant les personnes âgées que les jeunes qui ne se sont pas déplacés. Résultat, un trou d'air électoral pour l'extrême droite et pour la gauche radicale, écrit le journal. Le Vlaams Belang a beaucoup souffert du faible taux de participation et cela a probablement aussi coûté 3 points au Parti des Travailleurs, le PVDA. Ce sont eux, conclut le journal, les perdants du faible taux de participation.
Merci Léonard Vincent. En Lituanie, on penche plutôt à gauche. Ça n'est pas vraiment la tendance au niveau européen. Le premier tour des législatives avait lieu hier. Il a mobilisé un peu plus de la moitié des électeurs et ils ont placé en tête le Parti social-démocrate devant les conservateurs au pouvoir, Marielle Vituro.
L'eurodéputé Vilija Blinkevičiūtė, à la tête des sociaux-démocrates, assure qu'avec ce vote, les Lituaniens ont montré qu'ils veulent un État qui fonctionne et l'accès aux services publics. Le vivier des voix des sociaux-démocrates est en région. Les écarts de revenus et de développement sont encore grands entre le centre et la périphérie. Après un mandat marqué par la crise du Covid et la guerre en Ukraine, les conservateurs qui dominent dans les grandes villes ont payé le prix de l'insatisfaction des électeurs. Les premières discussions en vue de la future coalition gouvernementale ont eu lieu dès ce soir entre les sociaux-démocrates et une autre formation de centre-gauche. Néanmoins, tout reste encore indécis jusqu'au second tour. Les sociaux-démocrates excluent pour le moment une coalition avec les conservateurs, arrivés pour l'instant deuxième, et avec le parti de l'Aurore de Nemunas. Cette récente formation est dirigée par un homme politique condamné pour antisémitisme. À l'issue du second tour, dans 2 semaines, le président aura un rôle important à jouer en désignant le parti en charge de former la nouvelle coalition. Marielle Vituro, Vilnius, RFI.
11h49 en temps universel. La Commission européenne demande des explications à Temu, cette plateforme de commerce en ligne chinoise où on trouve à peu près tout et à tout petit prix. Temu est soupçonné de ne pas en faire assez pour empêcher la vente de produits illégaux et dangereux, Lakshmi Milota.
Temu doit par exemple pouvoir indiquer si un produit répond aux exigences de l'Union européenne en matière de sécurité et fournir des informations transparentes sur ses vendeurs. En mai dernier, des associations de consommateurs ont déposé plainte auprès de la Commission européenne pour violation de ces règles. La plateforme chinoise de vente en ligne compte plus de 75 millions d'utilisateurs mensuels au sein de l'UE. Grâce à ses prix bas, elle connaît une croissance importante en Europe et a assuré collaborer avec la Commission pour la sécurité des consommateurs. En juin dernier, l'Europe a déjà demandé à Temu des informations sur la protection des mineurs ou encore sur son algorithme. Cette fois, des précisions sont attendues sur les commerçants qui travaillent avec le site. L'exécutif européen souhaite une réponse pour le 21 octobre. Il pourrait ensuite ouvrir une enquête formelle En cas d'infraction avérée, Temu s'expose à de lourdes sanctions financières. Lax Milota, Bruxelles, RFI.
Voilà pour les règles européennes sur le commerce. On va se demander maintenant comment l'Union européenne se positionne dans la course aux investissements verts. C'est notre question d'environnement du jour. Bonjour Pauline Glaise.
Bonjour Anne.
Ursula von der Leyen veut lancer un pacte pour l'industrie verte dans les 100 premiers jours de son nouveau mandat. C'est un enjeu pour la transition écologique. Un enjeu aussi économique et géopolitique.
Et oui, avec les impératifs d'une transition vers une économie décarbonée, renforcer l'industrie verte est évidemment un enjeu important pour les économies mondiales. La Chine fait course en tête. Selon un rapport du think tank européen Strategic Perspectives sorti aujourd'hui, elle attire à elle toute seule près de 40% des investissements mondiaux pour l'économie neutre en carbone. Elle contrôle aussi l'intégralité de la chaîne de valeur et ça c'est très important. Ça veut dire que ces technologies ne dépendent pas d'une pièce qui serait construite ailleurs et elle inonde d'autres marchés avec ses produits. On pense aux panneaux solaires par exemple. Cela dit, l'Union européenne est plutôt bien positionnée dans cette course aux investissements verts. Malgré les craintes qu'a alimenté l'Inflation Reduction Act américain, l'Union européenne est restée sur la deuxième marche en termes d'attractivité des investissements l'an dernier. Si les sommes restent encore très loin derrière la Chine, 334 milliards ont été investis l'an dernier, un chiffre en nette hausse par rapport à l'année précédente. L'accélération dans les énergies renouvelables sous l'impulsion de la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine et le pacte vert n'y serait pas pour rien. En planifiant la transition, ce Green Deal dessine de nouvelles opportunités dont les investisseurs se saisissent et l'impact n'est pas des moindres. 30% de la croissance sur le vieux continent était liée l'an dernier à la transition.
Mais cette position est fragile, Pauline.
Le programme d'investissement Next Generation EU est censé finir en 2026 et aux yeux d'I4C, un autre think tank, les finances publiques ne seraient pas bien ciblées pour répondre aux besoins du marché. Les 27 ont aussi du mal à accompagner la croissance de leurs start-up, des étapes d'innovation jusqu'aux projets pilotes, voire jusqu'à la commercialisation. Et ça, au contraire, les start-up trouvent un terrain financier plus favorable aux États-Unis, au point qu'un certain nombre de jeunes pousses européennes décident de partir outre-Atlantique. Et côté chinois, des subventions importantes et la taille de son marché intérieur lui donnent une force de frappe importante, tout simplement parce que ça lui permet de faire des économies d'échelle et de vendre ensuite ses surplus à des prix ultra compétitifs.
Et comment l'Union européenne peut-elle tirer son épingle du jeu ?
En restant unie avec des chaînes de valeur intégrées. Et pour Neil Makarov, directeur de Strategic Perspectives, il a identifié lors d'une conférence de presse en ligne trois piliers pour qu'un pacte industriel propre soit efficace.
Le premier, c'est de débloquer l'investissement. Peut-être que le fonds pour la compétitivité présenté par la présidente von der Leyen pourrait combler le manque. Le deuxième pilier, c'est vraiment de pouvoir construire la chaîne de valeur en Europe. Et le troisième pilier est de décarboner notre base industrielle, car aujourd'hui, elle est extrêmement vulnérable au prix de l'énergie. Et si le pacte sur l'industrie propre couvre réellement ces piliers, il a la possibilité de transformer l'Europe en une puissance verte et pas seulement en une consommatrice de technologies vertes. Into a green
consumer. Car l'Union européenne va en consommer des technologies vertes. Elle s'est fixé un objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 90% d'ici 2040. Notons aussi que l'impact sera d'autant plus grand si les technologies vertes sont produites dans des pays à l'énergie déjà fortement décarbonée. Mais cela dit, un expert d'I4C craint que ce pacte pour une industrie propre ne répète des erreurs du passé. Et il craint que cela n'ajoute une couche supplémentaire à une architecture déjà compliquée.
Notre question d'environnement avec Pauline Glaise.
RFI Midi. Un monde de tech.
Notre monde de tech avec Anne Lenir, correspondante en Italie, où la police a découvert un système très sophistiqué de piratage IPTV, c'est-à-dire télévision sur protocole Internet. Ce réseau était basé à Lecce, dans le sud du pays. Il permettait d'accéder à prix cassé à des chaînes ou à des plateformes payantes comme Sky ou Netflix, Anne.
Eh bien, l'enquête menée par la police financière et des experts en cybercriminalité a abouti au démantèlement d'un réseau d'escrocs qui parvenait à exfiltrer des clés de décodage nécessaires pour visualiser des contenus audiovisuels payants. Le système de décodage était transmis à des revendeurs en ligne, des intermédiaires donc, qui proposaient aux clients d'accéder à des flux audiovisuels à un prix très inférieur aux abonnements officiels. Pour cela, les utilisateurs devait recharger des cartes post-pay, des cartes prépayées fournies par la poste italienne qui devaient être intitulées au nom des pirates. Un stratagème permettant de recevoir l'argent de manière discrète. Mais paradoxalement, c'est grâce à cette combine que les enquêteurs ont pu remonter la piste qui les a menés jusqu'à Lecce et à quatre pirates.
Et combien d'argent cette arnaque aurait-elle rapporté aux pirates ?
Le butin a atteint plus de 500 000 euros réinvestis dans l'achat de biens immobiliers et de voitures qui ont été saisies. Quant aux pirates identifiés, dont l'organisateur principal du réseau, ils ont été mis en examen pour diffusion illégale de services d'IPTV, violation des droits d'auteur et blanchiment de capitaux.
Le piratage audiovisuel représente une activité très lucrative pour le crime organisé. Comment est-ce que l'Italie lutte contre ce fléau ?
Une nouvelle loi a été adoptée en 2023. Elle prévoit jusqu'à 3 ans de prison et une amende de 15 000 euros pour les fournisseurs de services IPTV illicites. Elle vient d'être renforcée par un amendement introduisant une sanction de 5 000 euros pour les utilisateurs de systèmes mis en place par des pirates. Par ailleurs, le gouvernement Meloni a lancé une sorte de bouclier anti-piratage, une plateforme automatisée de blocage IPTV supervisée par l'AGCOM, le régulateur des communications.
Anne Lenir, correspondante de RFI à Rome.
Dakar, 92 FM.
Dans un peu plus d'une demi-heure maintenant, Afrique Midi avec vous, Nicolas Sûr, et le Sénégal donc à la une.
Oui, Anne Cantner, absolument. Le pouvoir présente aujourd'hui son programme Sénégal 2050, un programme économique mais aussi politique pour les 25 prochaines années. Et puis une cinquième réunion ministérielle entre la RDC et le Rwanda ce week-end sous médiation de l'Angola. Les ministres ont insisté sur la nécessité d'appliquer le cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août au Nord Kivu. Ils ont aussi convenu de prochaines étapes concrètes pour sortir de la crise.
À tout à l'heure, on vous retrouve à 12h30, temps universel. D'ici là, le programme sur RFI, le journal dans quelques minutes et juste avant de la musique, un extrait du nouvel album de Bon Entendeur. Voici le titre Rome à écouter dans la playlist RFI en ce moment. La BO de mon été.